Ouais, donc Farid, je disais, nous sommes ici en direct de la mosquée de Pilel à l'Épaule, quartier d'Épaule. Il est prévu, comme j'avais annoncé la semaine dernière, à l'émission La Prophétie, pour les auditeurs, les auditrices, il était prévu un direct de cette mosquée même, avec la présence de Hassan Hussein, qui va faire une intervention, une petite conférence. Et en introduction, avant de commencer de but en blanc avec la conférence de Cheikhouna Hassan, il y a quelques lectures de Coran qui a été faite par quelques lecteurs, Abdel Mounaïm, donc de l'Issud. Il y avait une petite invention d'un petit jeune sur le bienfait de la lecture de Coran. Mais avant de lancer un petit peu l'ensemble du programme, je suis ici avec moi, avec Aziz, donc le président de la mosquée Bilel à l'Épaule. Donc je vais vous passer directement Aziz, qui va nous faire une petite introduction sur cette même mosquée. Et à ce moment-là, on passera le relais avec le programme de ce soir, et d'ici, on va dire, une grosse demi-heure, on aura la possibilité d'écouter aussi la conférence de Cheikhouna Hassan. Donc voilà, Farid, c'est pas évident avec le direct, hein, mais on essaye de faire comme on peut. C'est pas notre premier direct, mais bon, il y a quelques, parfois, des petits imprévus techniques. On exclut les auditeurs pour ces imprévus, quoi. Donc, tu me coupes, bien entendu. Je te transmets donc Aziz, président de Mosquée Bilel.
Barakallahu fik.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je m'appelle Al-Khayli Abdelaziz, donc le président de l'association musulmane de l'Épaule, anciennement en fait appelée l'association afro-islamique. C'est une association qui a été créée il y a 30 ans. Alhamdulillah, à ce jour, on a pu acheter ce grand local qui fait à peu près 1500 mètres carrés. Et alhamdulillah, on a réussi à rendre toutes les dettes. Mais le défi, en fait, est devant nous, c'est la construction du projet. Donc, Inch'Allah, ça sera une très belle mosquée. Et on essaye d'avoir toute l'infrastructure et toutes les... Et que ça sera, Inch'Allah, une mosquée très rayonnante d'Europe, Inch'Allah, qui rassemble tous les musulmans de l'Épaule. Et je passe le bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Passe Téléphone. Et soyez le bienvenu chez nous à la mosquée Al-Masjid Al-Bilal à Rive l'Épaule. Barakallahu fikoum.
Classique Aziz, donc pour l'intervention du président de la mosquée Bilel. Sans plus attendre, puisque le programme ici a déjà commencé un petit peu avant 7h, donc on ne va pas monopoliser inutilement l'antenne.
Juste le programme, et c'est tout.
Oui, dans le programme, j'avais dit, il y avait un petit peu de récitation de Coran de différentes personnes. Oui. Il y avait Abdel Mounaïm qui est déjà passé sur les ondes de Passe Téléfilm. On l'avait accueilli dans une de nos émissions avec Ahmed. Et on va, donc là, normalement, il devrait avoir Faisal qui va intervenir pour essayer un peu de récitation au Coran. Il faut toujours intervenir, il faut toujours faire une intervention par le Coran, hein, c'est pour la bénédiction. Maintenant, on va refaire un petit peu de lecture de Coran. Et ensuite, et puis on passera à la conférence de Cheikhouna Hassan, qui est déjà là, Inch'Allah. Donc voilà un petit peu pour le programme Farid.
Donc tu me dis,
j'encourage aussi vivement les Roubaisiens et Roubaisiennes qui, et ceux d'ailleurs, bien entendu, qui peuvent directement venir à la mosquée de l'Épaule, hein, donc quartier de l'Épaule. Il y a beaucoup d'activités, hein, il y a des ventes de livres, il y a quelques repas qui seront servis, enfin bref, c'est vraiment une soirée festive, tout en profitant bien sûr à la fois de la lecture de Coran et à la fois les lumières de notre habituel Hassan Hussein, qui va donc effectuer une conférence d'ici peu, Inch'Allah. Donc tu peux passer sur le deuxième, deuxième relais, et en espérant qu'il n'y ait pas de soucis, au niveau technique, je te rappellerai si besoin est, d'accord?
Pas de soucis.
Donc je voulais, avant de continuer le programme, je voulais donc souhaiter la bienvenue dans notre civilisation, encore une fois, à vous toutes et à vous tous, ceux qui nous écoutent, aussi en direct de la radio. Barakallahu fikoum. Et Inch'Allah, j'espère que cette soirée se passera le mieux pour vous comme pour nous, ceux qui sont ici et ceux qui nous écoutent.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nuhmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa liyus salihin. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques rappels. Alors, le premier, c'est qu'on ne doit jamais s'arrêter de louer et de remercier Dieu de nous avoir permis d'acquérir cette nouvelle mosquée. Et si ce n'était l'aide de Dieu, sa grâce, cette mosquée n'aurait pas venu. Donc, il ne faut pas oublier l'essentiel. C'est que tout ce que l'on fait, on le fait parce que Dieu nous l'a permis, nous l'a autorisé. Et si on fait du bien, c'est parce que Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il nous a guidés sur le chemin du bien. C'est pour cela, faites attention. Le plus dur n'est pas de faire le bien, mais c'est de continuer à faire le bien et ne pas regretter le bien qu'on a fait. Vous entendez ? Parce que Dieu peut nous guider, nous mettre sur le chemin du bien, et une fois qu'on est sur ce chemin et qu'on le fait, on se mord les doigts, on regrette, on retourne la veste. Car tant qu'on est vivant, on n'est pas à l'abri. Tant qu'on est vivant, on n'est pas à l'abri de remettre en question toutes les bonnes actions que nous avons faites. Ainsi, il faut toujours dire « Alhamdulillah alladhi hadana li hada » وَمَا كُنَّا لِلَهْتَدِيَنَا وَلَهْتَدَانَ اللَّهِ. C'est ce que diront les croyants au paradis. Ils diront gloire, louange à notre Seigneur parce que c'est lui qui nous a guidés sur cette voie. La voie qui mène au paradis, la voie de l'islam. Et si ce n'était la grâce de Dieu, on ne serait pas sur cette voie. En d'autres termes, Dieu nous a élus, il nous a choisis. Et quelque part, il faut en être fier, heureux. Qu'on le défende les dali, ou bien rahmatihi, fabizalika, faliyafrahu, ruwa khayrun mimma yajma'un. Si on doit être heureux, fier de posséder quelque chose, il faut être fier et heureux d'avoir la foi, d'être soumis dans la voie de l'islam. Car cette soumission, cette guidance est meilleure que tout ce qui est sur la terre. La preuve, celui qui renie Dieu, au moment de la mort, le jour de la résurrection, quand il verra l'enfer, il dira, oh, si seulement j'avais tous les trésors qui existent sur terre, pour les donner, en échange de quoi ? En échange d'un instant en enfer. Ça, c'est le premier point, alhamdulillah. Et là, une des plus belles formules que l'on doit prononcer tous les soirs et tous les matins, c'est « Ya Rabbi lakal hamdu, kama yalbari, li jalali wajlika, wa azimi sultanik. » Trois fois le matin, trois fois le soir, celui qui prononcera cette formule, le matin, aura remercié Dieu pour tous les dons, les bienfaits, la grâce de Dieu durant la nuit. Celui qui dit cette parole le soir pourra remercier Dieu pour tous ses bienfaits, sa grâce, ses dons de la journée. Et là, tu peux dormir tranquille puisque tu as été un serviteur reconnaissant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Dieu. » Celui qui ne remercie pas les gens, celui qui est ingrat envers ses semblables, il est ingrat aussi envers Dieu. Car on ne peut pas se rapprocher de Dieu si on ne se rapproche pas des créatures de Dieu. Vous entendez, c'est une règle. Ainsi, cette religion ne se développe pas par le biais et la présence uniquement des anges. Les anges sont présents à l'instant dans la mosquée et nous recouvrent de leurs ailes. Ils sont en train d'implorer Dieu de faire des invocations pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque des croyants se retrouvent dans une demeure, parmi les demeures de Dieu, donc la mosquée, pour évoquer Dieu, pour apprendre la religion, alors les anges s'invitent. Et qu'est-ce que font ces anges? Ils passent leur temps à implorer Dieu pour nous. Et ils sont à notre service. Et nous avons besoin de leur aide.
car la doua des anges est bénéfique. Nous avons besoin de leur présence, car les anges font fuir les diables. Parce que les anges, leur soutien, comme je vous ai dit, il est particulier. Cette religion, si elle existe encore aujourd'hui, si elle continue à se développer, c'est grâce à des hommes et à des femmes. La phrase, Dieu dit dans le Coran, « Rouwallati ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin » Dieu parle à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, « C'est moi Dieu qui t'ai secouru. C'est moi Dieu qui t'ai à tes côtés. C'est moi Dieu qui t'ai protégé, qui t'ai donné la force de faire ce que tu as fait. » Point final, non. C'est moi Dieu qui t'ai secouru directement et par le biais de qui ? Des croyants. Vous entendez ? Les dieux protègent, défendent, développent sa religion par l'intermédiaire de qui ? De ceux qui lui sont soumis. Ainsi, s'il n'y avait pas des hommes et des femmes pour construire les mosquées, les anges ne les auraient pas construites. Vous entendez ? D'après les historiens, c'est Jibril, alayhi salam, qui aurait posé la première pierre de la Kaaba. Vous entendez ? Jibril aurait posé la première pierre de la Kaaba. Point final. Allez, Dieu dit dans le Coran, « Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt » Ibrahim a déjà trouvé les fondations de la Kaaba prête. Et il n'a fait que quoi ? Que terminer la construction. Les fondations étaient déjà là. Certains historiens disent que ce sont les anges qui ont fait les fondations. Et ça, c'est particulier à la Kaaba, particulier à la maison sainte, à la mosquée sainte. Toutes les autres mosquées, qui est-ce qui met la première pierre ? Une personne, un groupe de personnes, qui sont animées par la foi, par le souci d'accomplir leur devoir sur terre. Et ce petit groupe d'individu, c'est lui qui fait le travail le plus dur parce que les débuts sont toujours les plus difficiles. Ce sont les pionniers. Ce sont eux les bâtisseurs. Et après viennent les autres pour continuer, parachever, pour développer. Mais, as-sabiqoun, as-sabiqoun, oulaika humu al-muqarraboun. Il y a trois types d'individus sur terre. Vous avez les gens de la droite, les gens de la gauche, et vous avez un troisième catégorie. Vous savez qui ? La droite de la droite. Les muqarraboun, ceux qui sont proches. Ceux qui ont fait lorsque personne ne faisait. Vous entendez ? Ceux qui se sont engagés lorsque personne ne voulait s'engager. Ceux qui ont débroussaillé le terrain, travaillé le plus dur. Et c'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui, subhanallah. Frère a raison, vous vous souvenez tous, hein, puisque vous êtes majorité de ce quartier, de l'ancienne mosquée. C'est trop petit, et en plus ça ne nous appartenait même pas. S'il n'y avait pas eu un petit nombre de personnes convaincues que les mosquées, que les musulmans ont le droit d'avoir une mosquée. Voire les musulmans ont le devoir d'ériger une mosquée. Parce que leur religion ne doit pas être une religion marginale ou clandestine. Au contraire, ce doit être une religion sur la place publique pour qu'elle se voie et qu'elle s'entende afin qu'on ne la craigne pas. Afin que l'on ne s'imagine pas bien une chose sur cette religion et ses adeptes. C'est fini l'islam des cases, des sous-sols. S'il n'y avait pas ce groupe de personnes qui ont lancé la machine, cette mosquée n'aurait pas vu le jour. Alors ce n'est pas, ça ne fait pas partie de la bonne éducation que de ne pas remercier ces pionniers-là. D'ailleurs, entre nous, on les remercie, on ne les remercie pas, Dieu les a déjà remerciés. Et c'est le plus important. Ils n'attendent pas de notre part des applaudissements et des remerciements.
mais ils attendent, et même s'ils ne l'attendaient pas, de la reconnaissance. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Ainsi, on remercie les frères et les sœurs qui ont lancé ce projet, et en particulier le frère Wari qui était à la tête avec son équipe, qui ont guerroyé. Ils ont guerroyé pour avoir aujourd'hui cette belle mosquée. Et on encourage les frères Al-Ain qui sont devenus responsables pour qu'ils continuent le travail et qu'ils améliorent l'existant. Et ils sont à la hauteur et ils sont capables. Et de manière générale, je remercie les anciens responsables, les nouveaux responsables, parce que c'est magnifique. Cette passation de pouvoir dans la paix, dans la fraternité, dans l'entente, les élections, c'est pour. Malheureusement, on a encore certaines mosquées en France, les responsables ont 20 ans, 30 ans, hein, de pouvoir, entre guillemets. Pas de transparence, pas d'élection, les statuts ne sont pas respectés. Il faut que les mosquées fonctionnent de manière démocratique. Il y a des adhérents et il y a des responsables. Les responsables doivent rendre des comptes. Ils doivent être, les comptes, tout doit être transparent. Et on doit, lorsqu'ils ont tort, leur dire qu'ils ont tort, lorsqu'ils ont raison, qu'ils ont raison. Et s'ils sont à la hauteur, on les reconduit s'ils le veulent bien. Sinon, d'autres prennent la place et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on avance. Et que les mosquées soient dirigées, comme malheureusement beaucoup de pays dans le monde sont dirigés par des despotes, des dictateurs, des gens qui pensent qu'ils détiennent la vérité absolue et qu'ils sont infaillibles. Ce genre de mosquée n'ira pas bien loin et on n'aura pas de fruits. La mosquée appartient à Dieu. Elle est gérée par des humains qui doivent être au service de Dieu et de leurs semblables. Vous entendez ? La mosquée appartient à Dieu, mais elle est gérée par des humains qui doivent être au service de Dieu. Ils doivent être au service des serviteurs de Dieu. Troisièmement, bien sûr que nous allons remercier la Radio Pastel, ses responsables, ses dirigeants, en particulier son conseil d'administration et tous les animateurs des différentes émissions et surtout de l'émission La Prophétie. Vous connaissez hein, tous les vendredis soirs, juste après, suivi d'émission de chant religieux, Saint-Fina. L'obligé serait quelque part reconnaissant de remercier tous ces hommes, toutes ces femmes que l'on ne voit pas, hein, qui font un travail dans l'ombre extraordinaire. Et la radio Pastel est vraiment une bouffée d'oxygène pour beaucoup de monde. Avant-hier, j'ai reçu un coup de fil. De quelqu'un qui demande d'écouter sans doute, hein, pour ne pas la citer, c'est Aïda, que Dieu la protège, que je connais depuis 20 ans, elle était une adolescente, quand je donnais encore des cours à la mosquée de Nuit Sud, c'est une femme mariée avec ses enfants maintenant, que Dieu la bénisse, elle me disait, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je t'entends tous les vendredis soirs, et heureusement qu'il y a la radio, pourquoi pour ne pas oublier qui nous sommes, d'où nous venons et nous devons aller. Et la semaine dernière, j'ai fait une conférence dans le Pas-de-Calais et j'ai rencontré un frère qui m'a dit « Continuez, Allah et Balikikoum, votre émission, parce que moi j'étais en prison à Lille et s'il n'y avait pas l'émission du vendredi soir pour me permettre de rester un être équilibré à travers l'apprentissage de ma religion, je serais peut-être encore aujourd'hui un délinquant, voire un monstre. » Donc c'était cette radio, c'est une radio, masha'Allah, qui est ouverte à tout le monde, une radio de tolérance, il faut qu'elle le reste. Et puis une manière pour qu'elle le reste, il faut la soutenir. Parce que malheureusement, elle a des détracteurs. Les gens à qui ça ne plaît pas que vendredi soir, il y a une émission où des musulmans s'expriment, des musulmans ont la possibilité d'écouter, des non-musulmans ont la possibilité d'entendre et de réagir. Parce que ce sont des fanatiques, des intégristes qui veulent éliminer la différence, qui veulent faire disparaître la différence. Donc merci à Radio Pastel, et en particulier à son président fondateur, M. Slimane Zir, qui est un homme qui ne parle pas en public pour se montrer, se pavaner, mais qui fait beaucoup en silence, et il faut être reconnaissant envers ceux qui font le bien. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le droit de l'amour. Il y a dans le Coran des versets qui nous parlent de l'objectif. Pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait sur terre des mosquées? Pourquoi les croyants, les musulmans doivent ériger des mosquées? Dieu dit dans la Sourate Al-Tawba, la neuvième, le repentir. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Seuls ceux qui ont la foi, qui accomplissent la prière, qui donnent la zakat, l'aumône, et qui craignent le Dieu sincèrement, vont aller à la mosquée, prier à la mosquée, se recueillir dans les mosquées de Dieu. Ça a l'air de dire, la mosquée a pour objectif essentiel de permettre aux croyants qui croient en Dieu, qui croient au jour de la résurrection et qui pratiquent, la mosquée a pour objectif de permettre à ces gens-là de pratiquer leur religion, de s'épanouir dans leur pratique spirituelle dans la mosquée. Ainsi, l'objectif de la mosquée, c'est de permettre aux croyants de se retrouver pour pratiquer leur religion. Et en particulier, le pilier le plus important de notre religion, qui est la salat. Le pilier le plus important qui est la prière. Vous savez tous que la prière, il nous est demandé de la faire en commun. La prière obligatoire. La prière qui n'est pas obligatoire, il est recommandé de la faire chez toi, loin du regard des gens. Si tu veux être un dévot, sois-le en privé. En public, tu fais ce qui est obligatoire, c'est-à-dire ce que tout le monde est censé faire. Afin qu'il n'y ait pas entre eux, les croyants, sentiment d'orgueil et de vanité. Et pour cela, je dis dans le Coran, à Madian, alayhi salam, wa raka'i ma'a ar-raka'in. Parce que tu te prosternes-toi avec les autres, en groupe. Et la prière à la mosquée a plus de valeur que la prière faite ailleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih, que la prière faite à la mosquée vaut 27 prières faites sur son lieu de travail ou chez soi. Il y a même certains savants qui vont jusqu'à dire que la prière à la mosquée est une obligation pour les hommes. Celui qui n'a pas une excuse valable pour prier ailleurs se doit obligatoirement de prier à la mosquée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a invités à la mosquée et il ne suffit pas à un croyant de ne pas répondre à l'invitation de son Créateur. Hayya ala al-salat, venez à la prière. Hayya ala al-falah, venez à la réussite. C'est Dieu qui nous interpelle, et non pas cet être humain. Lui, il n'est qu'un moyen que Dieu utilise. Donc l'objectif numéro un, le rôle de quoi jouer la mosquée, c'est de permettre aux musulmans de venir accomplir cet acte fondamental qui est la salat, le recueil, la prière, cinq fois au minimum par jour. Les savants vont beaucoup plus loin. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que si des musulmans vivent dans une ville, dans une contrée, dans un village, et qu'ils n'érigent pas de mosquée, qu'ils ne font pas de mosquée, ils sont tous dans le péché. Vous entendez ? Parce que les musulmans vivent quelque part, et qu'ils ne construisent pas une mosquée pour prier ensemble, ils sont tous dans le péché jusqu'à ce qu'ils construisent la mosquée. Et d'ailleurs, si vous allez dans certains pays musulmans pauvres, vous savez qu'est-ce que font les musulmans ? Ils n'ont pas les moyens pour construire une mosquée comme nous le faisons aujourd'hui. Ouais, des parpaings, une voiture, une moquette. Alors, c'est ce qu'ils font, ils éliminent une surface. Avec quoi ? Avec des bambous, hein, du bois, voire même, ils posent des pierres. Ils éliminent, ils créent une sorte de territoire sacré. Et cet endroit est considéré comme la mosquée. Et c'est là où ils se recueillent en plein air. Pourquoi ? Pour faire la prière en groupe. Car le prophète sallam a dit, dans un quartier, s'il y a trois musulmans dans un quartier et qu'ils ne prient pas ensemble, le diable les a dominés. Hein? C'est le diable qui joue avec eux parce que l'unité, l'union, la cohésion des musulmans est synonyme de bénédiction et synonyme de grâce divine. La division, la séparation, l'égoïsme est le propre de la philosophie de Shaytan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui s'éloigne du groupe, celui qui s'éloigne de la communauté, celui du paradis se rapproche de l'enfer. Et le loup, le lion ne mange du troupeau que la bête qui s'est éloignée. Ils disent non, les savants vont beaucoup plus loin. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, si les musulmans habitent dans une ville, dans un quartier, dans un village, et qu'ils ne font pas l'appel à la prière pour interpeller les autres, ils sont tous dans l'erreur. Et l'autorité religieuse musulmane, l'autorité politique, doit leur imposer que l'adhan soit fait. Parce que il y a parmi nous des gens qui sont distraits, des gens qui oublient. Si aujourd'hui on ne peut pas faire la dalle à l'extérieur, sachez que le fait qu'il y ait une mosquée dans un quartier, c'est suffisant pour rappeler aux musulmans du quartier qu'il faut qu'ils aillent à la mosquée. La preuve, on avait avant une petite mosquée, elle était laissée là, maintenant on a une grande mosquée, elle est remplie. D'où viennent tous ces gens qui remplissent cette mosquée? Ils viennent du quartier et des alentours. Et s'il n'y avait pas eu cette grande mosquée, ces gens-là n'auraient pas pu faire la prière à la mosquée. Donc, rien que le fait de construire une mosquée dans un quartier, c'est un rappel. Pour qui? Pour les musulmans qui ont oublié une partie de la religion, qui sont distraits. Regardez, on a encore malheureusement en France aujourd'hui certaines mosquées qui n'accueillent pas les femmes, sous prétexte qu'il n'y a pas de place pour les femmes, la mosquée est trop petite. Résultat, si vous faites un sondage dans cette ville, dans cette quartier, vous verrez que la pratique religieuse chez les femmes allait au plus bas, parce qu'il n'y a pas de mosquée. À l'inverse, une ville, un quartier où se trouve une mosquée, vous trouvez la pratique religieuse chez les femmes qui est au plus haut, grâce à qui ? Grâce à la mosquée. Bon. L'objectif numéro un, c'est de permettre aux musulmans, à travers la mosquée, de rester musulmans. Il n'y a pas d'islam s'il n'y a pas d'esprit de communauté. Vous entendez ? Il n'y a pas d'islam s'il n'y a pas d'esprit de communauté. Voilà. Dieu jure, c'est une question de sens. L'être humain est voué à sa perte. Qui va être sauvé? Ceux qui croient, ceux qui agissent, qui font le bien. Point final? Non. ceux qui se conseillent mutuellement dans la patience et dans la vérité. Et comment voulez-vous que l'on se conseille les uns les autres si on n'a pas un lieu où l'on se rencontre? Vous vous rendez compte, l'importance de la mosquée, elle nous permet de rester musulman. Car celui qui est loin de la mosquée est loin de la miséricorde de Dieu. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, qu'il y a 7 catégories d'individus qui seront à l'ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre. Parmi ces 7 se trouve quelqu'un qui est soucieux de faire ses prières à la mosquée. Quand il a fait son dans la mosquée, il sort de la mosquée pour vaquer à ses occupations, à ses obligations, il n'a qu'un souci, c'est comment faire pour revenir faire l'âme. Et ainsi de suite, pour chaque prière, il calcule, il fait tout, il s'organise, il planifie son temps, ses activités, pour essayer de ne pas rater une prière à la mosquée. Cet homme qui recherchait l'ombre de la mosquée sera à l'ombre le jour de la résurrection. Celui qui est loin de la mosquée est loin de la miséricorde de Dieu, il est loin de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith faible, si vous voyez un musulman aller souvent à la mosquée, alors vous pouvez témoigner qu'il a la foi. Et le verset que je viens de vous réciter confirme cela. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Qui va être présent en permanence à la mosquée? Celui qui croit en Dieu et au jour de la résurrection. C'est-à-dire, plus on a la foi, plus on côtoiera, on fréquentera la mosquée. Moins on a la foi, plus on est loin de la mosquée. Donc, si on veut avoir la foi, il faut aller à la mosquée. Premier rôle de la mosquée, c'est de permettre aux musulmans d'être, de rester, de développer leur croyance, leur foi, c'est de rester musulman. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih, celui qui participe à la construction d'une mosquée afin que le nom de Dieu soit évoqué dans la mosquée. C'est-à-dire l'objectif de la mosquée, c'est que les gens s'y retrouvent. Pourquoi? Pour se rappeler Dieu. Lui qui participe à cette construction, ou celui qui construit une mosquée dans cet objectif, donc l'objectif premier qui doit la première motivation pour construire la mosquée, c'est quoi? C'est qu'on fasse de ce lieu un lieu d'adoration. Celui qui participe, il aura une demeure sûre, garantie au paradis. Deuxième rôle que doit jouer la mosquée, c'est de permettre aux musulmans d'apprendre leur religion. Car il ne faut pas tourner autour du pont. On ne va pas réinventer la roue. Elle existe déjà. La religion s'apprend à la mosquée. Et c'est un leurre que de croire que vous allez apprendre votre religion ailleurs. Beaucoup de jeunes passent du temps sur Internet. Ils vont dans des sites. Des sites soi-disant islamiques, musulmans. Mais au passage, parenthèse oblige, la plupart des sites, à cause de l'action musulmane, sont des sites anti-islamiques. Les ennemis de l'islam travaillent matin, midi et soir, certains. Pourquoi? Pour déstabiliser la jeunesse musulmane sur Internet. Ils font des sites, elle est toute en apparence islamique. Et dès que tu pénètres dans le site, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves du miel, et à l'intérieur du miel, du poison, comme disent les Arabes. Et déjà, contre le diable, ils disent, je vais aller voir, je vais lire, je vais regarder ce qu'ils disent. Et à la longue, le doute s'installe dans ton esprit. Voire même, tu t'égares, car tu prends pour argent comptant ce qui est dit sur le site. Alors que tu ne sais même pas qui est derrière ce site. Abdullah ibn Abbas, le Mas'ud, radiallahu anhu, c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est une question d'enfer et de paradis. La religion, c'est pas un jeu. Apprendre sa religion, c'est pas comme apprendre des maths, hein, ou de l'anglais. C'est un 2 sur 20 en maths, c'est pas bien. Mais c'est pas pour ça qu'il rend en enfer. C'est un 20 sur 20 en maths, c'est pas pour ça qu'il rend en paradis. Par contre, si tu te plantes dans ta foi, dans ta pratique, c'est pas clair. C'est pour cela. Qu'est-ce que dit Abdullah ibn Mas'ud ? Il dit, c'est une affaire de paradis d'enfer. Alors, faites attention. Il faut faire attention à quoi ? Il faut faire attention à ceux qui nous enseignent la religion. C'est-à-dire, ne prenez pas cette religion de la bouche de n'importe qui. Vous pouvez être égaré par quelqu'un qui vous parle de Dieu et du prophète. Dans le Sahih de l'imam Muslim, il y a un hadith qui fait peur qui dit que le prophète Sulaiman a enchaîné des diables. Et vers la fin des temps, ils vont être déchaînés, ils vont sortir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parler, ils vont se répandre sur la terre, et ils vont parler au nom de quoi? Au nom de Dieu et du prophète, et ils égareront les gens. Et ça rejoint le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As. Cette religion ne disparaîtra pas avec la disparition des livres, des supports techniques. Mais cette religion va disparaître avec la mort du savant. Et vous savez, c'est quoi un savant? C'est quelqu'un qui maîtrise la théorie et la pratique. C'est quelqu'un qui maîtrise la théorie, donc les sciences religieuses, et la pratique. C'est-à-dire qui est un exemple et un modèle. Et là, on va sur Internet, on va sur un site, on ne sait même pas ce qu'il sait, qu'il alimente, qui sait qu'il est derrière ce site. Ce sont peut-être des sorties que Sulaiman alayhi salam a attachées. Ou, ces gens dont parle le hadith, la religion ne disparaîtra pas avec la mort, avec la disparition des supports, des livres, mais elle disparaîtra, cette religion, la science, disparaîtra, vous savez comment? Avec la mort des savants. Et lorsque les vrais savants auront disparu, qu'est-ce que vont faire les gens? Ils vont prendre pour savants des ignorants, des pseudo-savants, des quarts de savants, des indigènes de savants. Il y a un look de savants, la barbe qu'il faut, la top qu'il faut, la chilaba qu'il faut, la race qu'il faut, mais, il est ignorant. Et vous savez ce qu'il va faire, cet ignorant? Il va égarer les gens. Lui-même, il est égaré, il s'égare, et il va égarer les autres. Et pour cela, cette religion, si vous voulez l'apprendre et la connaître comme il se doit, le passage par la mosquée est obligatoire. Il est obligatoire. Comment tu fais pour passer ton temps sur Internet pour apprendre ta religion, alors que peut-être que tu ne sais même pas réciter la Fatiha? Et vous savez très bien que si la Fatiha n'est pas récitée comme il se doit, la prière n'est pas valable. C'est le pilier de la prière, la Fatiha. Où veux-tu apprendre la récitation de la Fatiha si tu ne t'assois pas avec l'imam et tu prends des heures de cours de lecture du Coran? Peut-être que tu fais tes ablutions et tes ablutions ne sont même pas valables. Moi, j'ai vu quelqu'un, il a plus de 40 ans, faire les ablutions devant moi, et vous savez ce qu'il a fait? Il ne s'est pas lavé les pieds, il a mouillé ses pieds. Il a mouillé ses mains, et il a frotté ses pieds avec ses mains. Il n'avait pas de chaussettes, hein? Quand on porte des chaussons, des chaussettes, on mouille sa main et on passe la main sur le dessus. Non. Il était les pieds nus, et il a essuyé. Et on sait tous que se laver les pieds, c'est une obligation lors des ablutions. Donc, ces ablutions ne sont pas valables, sa prière n'est pas valable. Et ça, vous ne l'apprendrez, et vous ne le connaîtrez que si et seulement si vous venez à la mosquée. Et vous suivez les cours à la mosquée. Et vous apprenez à la mosquée. Donc, le deuxième grand objectif de la mosquée, c'est de permettre aux musulmans d'apprendre leur religion. Et le danger, c'est d'apprendre sa religion seule, que ce soit par le biais d'Internet ou le biais des livres. Vous avez déjà vu, vous, un médecin pratiquer la médecine sans avoir au préalable fait des études de médecine et sans qu'il ait été sanctionné par ses supérieurs par un diplôme. C'est pas possible. Celui qui fait ça, c'est un charlatan. Il est tout de suite condamné à arrêter. Et dans le fait, dans le droit musulman, celui qui n'est pas médecin, qui se prend pour un médecin et qui soigne quelqu'un et qui aggrave sa maladie ou qui les tue, il est responsable. Et d'ailleurs, même dans le droit commun aujourd'hui. Ainsi, vous vous trompez si vous croyez qu'on va apprendre la religion ailleurs qu'à la mosquée. Internet, c'est pas mal. Les livres sont bons. Mais ils ne sont pas suffisants. Il faut venir s'asseoir, patienter, et tirer son savoir, de la bouche de ceux qui sont à la fois des gens compétents et qui ont aussi l'expérience et qui ont la piété et la crainte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih que celui qui quitte sa demeure, celui qui sort de chez lui et qui vient à la mosquée avec l'intention d'apprendre un verset du Coran ou une question de fiqh, celui-là, il a la récompense de celui qui fait une retraite spirituelle pendant un mois, qui jeûne la journée et qui prie la nuit. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui sort de chez lui et qui vient à la mosquée pour apprendre, il est sur le chemin qui mène au paradis, et tout le temps qu'il reste à la mosquée, il est au paradis. S'il décède, c'est un laissé-passé direct au paradis. Donc le deuxième rôle et objectif, c'est d'apprendre. Et il faut que la mosquée soit dans ce domaine à la hauteur. Et les responsables des mosquées doivent mettre sur leur programme l'enseignement de la religion. C'est une priorité. Ce qui fait une mosquée, ce n'est pas l'architecture de la mosquée. Mais c'est la vie spirituelle et intellectuelle qui l'anime. Vous savez, on a beau aménager cette mosquée, elle ne sera pas plus belle que la grande mosquée de Cordoue, qui est aujourd'hui un musée que l'on visite. L'origine, c'est une mosquée. C'était plus qu'une mosquée, c'était une mosquée université. Et les gens venaient du monde entier, même d'Angleterre. Donc en Angleterre a envoyé ses sujets à la mosquée de Cordoue pour apprendre les sciences profanes. À la mosquée de Cordoue aujourd'hui, on l'appelle la cathédrale, ce qu'il appelle une mosquée, l'appelle une mosquée, mais elle ne joue plus son rôle, puisque ni prière, ni enseignement de la religion n'y existe. Ben si, ce qui fait une mosquée, c'est pas l'architecture uniquement, quoiqu'elle ait sa place et son importance. Ce qui fait une mosquée, c'est quoi? C'est l'enseignement de la religion et la pratique de la religion à l'intérieur. Il faut que nos enfants viennent à la mosquée et lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils quittent la mosquée, il faut qu'ils aient évolué, il faut qu'ils aient appris. Si les enfants viennent à la mosquée, sortent de la mosquée sans avoir évolué, on n'a pas atteint notre objectif. C'est pour cela qu'il faut les responsables des mosquées et aussi les fidèles. C'est parce qu'on a des responsables qu'on doit dormir. On doit les ramener à l'ordre. Mais si on a choisi des responsables, on les a choisis par rapport à quoi? Par rapport à un programme. N'est-ce pas? C'est pas on vote pour voter, parce qu'il faut voter, non. Je vais choisir cette personne parce que, un, j'ai confiance en elle, deux, son programme, ce qu'elle propose, ben, ça va dans mon sens. Ainsi, les fidèles doivent être présents pour forcer la main aux responsables lorsqu'ils ne font pas leur travail, afin que l'enseignement de la religion soit au top dans la mosquée. Et il faut se donner les moyens.
Et ça, c'est un gros problème dans beaucoup de mosquées en France. Quand on veut construire la mosquée, quand on veut l'acheter, on se mobilise, on donne ce qu'il faut. Ça, c'est chapeau, bravo, félicitations. Mais après, quand on passe à la deuxième phase, et qu'il faut investir pour payer les salaires aux enseignants, n'est-ce pas ? Investir dans le matériel pour que l'enseignement soit digne, là, subhanallah, on dirait que les musulmans ne sont plus aussi motivés. Ils ne sont plus aussi motivés. Alors que la mosquée, ce n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif. La mosquée, ce n'est pas une finalité en soi. La preuve, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que les mosquées soient brûlées. Et Dieu lui a interdit, il a interdit aux croyants de fréquenter une mosquée bien particulière. Et pourtant, c'est une mosquée. Non, ce n'est pas une mosquée digne de ce nom parce que elle a été construite pour des gens qui avaient pour objectif non pas d'éclairer les êtres humains, mais de les égarer. Elle a été construite par des hypocrites qui voulaient utiliser ce lieu, entre guillemets, saint. Pourquoi ? Pour éloigner les gens de la religion. Donc, il ne faut pas se tromper. La mosquée, c'est un moyen pour atteindre un objectif. C'est quoi cet objectif ? C'est de permettre aux musulmans, les petits et les grands, les hommes et les femmes, d'être épanouis dans leur religion, à travers l'apprentissage et la pratique de la religion. Vous avez compris ? À travers l'apprentissage et la pratique. Et c'est ça la vraie sunna, tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, savez, qu'est-ce que faisait le prophète dans sa mosquée ? Il enseignait la religion. Il enseignait la religion. La preuve. Amr ibn Akhtab, radiallahu anhu, hadith rapporté par l'imam Muslim, dit que, après la prière du matin, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis sur la chaire, le minbar, et il a tenu un discours jusque la prière de Dhuhr. Vous vous rendez compte ? Du matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, c'est à peu près 5 heures. Pendant 5 heures, il aura fait une conférence. Il s'est arrêté pour la prière de soir. On a cru qu'il allait se contenter de son intervention matinale et il a repris l'enseignement jusque là. On a fait l'asr, on a cru qu'il allait s'en tenir à cette seconde intervention et il a repris jusque le mardi. Et après le mardi, il s'est arrêté, il fallait bien manger. Et Amrou a dit ce jour-là, ceux qui ont retenu le plus de choses sont parmi nous les plus savants. Car il aura parlé de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Bon, c'est un jour exceptionnel, hein, qui a été long. Mais pour vous dire que notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, utilisait la mosquée comme plateforme, pourquoi ? Pour transmettre le savoir. Pardon. Il y a un hadith même qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la mosquée, il a trouvé deux groupes de personnes, certains qui apprenaient et certains qui récitaient, et il est allé s'asseoir avec ceux qui apprennent, ceux qui enseignent. Pour vous dire qu'il donnait de la place, de la valeur et de l'importance à l'enseignement. Et à son époque, il y avait un bâtiment annexe à la salle de prière, et ce bâtiment annexe, c'était le dortoir, même le lieu de vie de certains musulmans déshérités. On dirait aujourd'hui des sans domicile fixe et qui étaient aux réunis. Ils étaient à la charge de la communauté. Et qu'est-ce que faisaient ces musulmans qui n'avaient pas de travail, qui n'avaient pas de demeure, qui n'avaient pas de famille? Qu'est-ce qu'ils faisaient à votre avis? Est-ce qu'ils passaient leur journée à regarder la télé ou à surfer sur Internet ou à parler au portable pendant des heures? Ils apprenaient la religion. Et parmi ces gens se trouve un grand homme que vous connaissez tous, qui s'appelle Abu Hurayrata Abd al-Rahman ibn Sakhr, radiallahu anhu. Il a dit, en parlant de lui, parce qu'on lui a fait une critique un jour, certains ont dit, comment se fait-il que Abu Hurayra connaît autant de choses, alors que il n'a pas côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'ont côtoyé d'autres compagnons. Et c'est vrai, Abu Hurayra, il s'est converti en l'année 8 de l'Hijr. Il a côtoyé le prophète pendant 3 ans. Mais il a côtoyé 24 heures sur 24 pendant ces 3 années. Et il a dit, Mes frères, Ansar et Muhajirin, les Bécois et les Madinois, à la différence de moi, c'est qu'ils avaient leurs travaux, ils avaient leur métier, ils avaient leurs responsabilités matérielles. Ils étaient engagés socialement. Moi, j'étais pauvre. Alors, je me suis concentré sur quoi ? Sur l'apprentissage de la religion. Eux n'avaient pas le temps que j'avais. J'ai dû rattraper mon retard, voire même les dépasser. Okay. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a profité de la présence de ces gens-là. Pourquoi ? Pour leur enseigner la religion. Et d'ailleurs, un jour, on va venir lui réclamer des profs, des enseignants, et ils vont en envoyer 70 qui connaissaient le Coran. Et d'ailleurs, ils vont être massacrés par l'ennemi. Donc, deuxième rôle et objectif de la mosquée, c'est quoi ? C'est l'enseignement de la religion. Et l'enseignement de la religion passe par l'enseignement et l'apprentissage de la langue arabe, pour pouvoir réciter le Coran comme il se doit, comprendre les béabas de la religion, sinon la religion peut aussi l'enseigner à travers le français. En tout cas, l'enseignement de l'arabe est nécessaire, car si l'arabe disparaît, il y a beaucoup de chances que les gens tombent dans l'ignorance même de la religion. C'est pour cela, l'enseignement de la religion n'est pas réservé aux enfants, il est réservé aux adultes et aux enfants. Vous entendez ? Les adultes se doivent de venir à la mosquée pour apprendre la religion. Et Dieu seul sait que, si on gère bien notre temps, nous sommes capables, en l'espace d'un an, de deux ans, une femme à mineur d'âge, elle a plus de 50 ans, elle ne connaissait pas un mot d'arabe. Elle est d'origine du nord du Maroc, elle ne parlait que le berbère, le riche. Pas un mot d'arabe. Elle s'est branchée sur la mosquée. Et vous savez, aujourd'hui, si vous l'écoutez, vous l'entendiez lire le Coran, vous allez dire cette fille, elle sort de l'Abraham. Elle a appris, grâce à la mosquée, grâce à un groupe de femmes qui se sont, qui ont prêté serment entre elles pour ne jamais se séparer tant qu'elles n'auront pas atteint leur objectif. Et leur objectif, c'était quoi ? C'est d'apprendre l'alphabet, d'apprendre la lecture et d'apprendre à réciter le Coran, et elle atteint son objectif. Et c'est possible que les personnes âgées ne se disent pas « Khalas, c'est trop tard, les vieux ». Beaucoup de compagnons se sont convertis alors qu'ils avaient plus de 40 ans, plus de 50 ans. Ça ne les a pas empêchés d'apprendre leur religion. Donc on n'est jamais trop petit pour apprendre, bien au contraire. Et la mosquée doit rayonner dans le domaine du savoir et l'apprentissage de la religion. C'est pour cela, quand on construit une mosquée, on construit en même temps avec quoi ? Son annexe, qui est l'école. Ce que certains appellent l'école coranique. Et c'est vrai, on enseigne le Coran, on enseigne la langue arabe, on enseigne la religion. Et c'est pas un mal en soi, au contraire, c'est un bien, c'est tout à fait logique et normal. Allez, que voulez-vous qu'on enseigne dans une école qui se trouve dans une mosquée si ce n'est le Coran ? Vous voulez qu'on enseigne quoi ? Et c'est pour ça que c'est la logique. Donc, l'école, la mosquée, sont des sœurs siamoises. Vous entendez ? Et si nous n'avons pas des salles de cours contiguës à la mosquée, la salle de cours, c'est la salle où l'on se prosterne, avec des tableaux sur les murs et des assises où chacun suit un programme, pourquoi ? Pour évoluer. Et d'ailleurs, nos ancêtres, ne croyez pas que si notre civilisation était grande, c'est parce que les mosquées étaient vides. Non, c'est parce que les mosquées étaient vivantes et qu'il y avait du savoir à la mosquée que nos ancêtres ont pu construire et fonder cette grande civilisation. Si vous allez, par exemple, dans le Maghreb, vous allez trouver au Maroc l'université de Fas, c'est ça ? Qayraouan. Al-Qarawiyyin, pardon. Qayraouan, c'est en Tunisie. Ouais. Et ce sont des mosquées universitaires. D'ailleurs, allez en Égypte, vous trouvez quoi ? Al-Azhar, et ainsi de suite. Tout le savoir est sorti d'où ? Il est sorti de la mosquée. Et que ceux qui savent enseignent à ceux qui ne savent pas. Et là, je lance un appel aux jeunes musulmans qui sont entrés dans la religion. Vous n'avez pas le droit de rester les bras croisés et de voir vos petits frères, vos vrais petits frères de sang, vos cousins, ou vos petits frères en religion, qui ignorent leur religion, que ce soit la théorie ou la pratique, et vous ne leur enseignez pas, vous ne leur enseignez pas la religion. Si chacun parmi nous prenait en charge 5, 6, 7 enfants, adolescents, une, deux fois par semaine, le mercredi et le samedi, à la mosquée pour lui enseigner ce que l'on sait, croyez-moi que nos petits frères seront meilleurs que nous. Et quand je dis l'enseignement, à la mosquée, ce n'est pas uniquement l'enseignement de la religion. Il faut qu'à la mosquée aussi, nous y trouvions l'enseignement dit profane aujourd'hui. Et ça existe dans beaucoup de mosquées, alhamdoulilah. Vous avez des cours de soutien. Pourquoi ? Pour permettre justement à ces jeunes musulmans qui fréquentent la mosquée de comprendre que notre religion, c'est la religion du savoir et de la science, et qu'on ne fait pas de distinction entre la science qui nous rapproche de Dieu à travers les pratiques rituelles et la science qui nous rapproche de Dieu à travers la connaissance du savoir humain qui nous permet justement de vivre sur terre de manière épanouie. Les deux vont de pair. Et nos ancêtres qui étaient des savants qui avaient un savoir éclectique, encyclopédique. Il est imam et en même temps médecin, juriste, botaniste. D'où lui vient cette soif, cet amour du savoir? Ça lui vient de la connaissance parfaite de sa religion. Et quand je dis le savoir à la mosquée, c'est les avoir pour les hommes et pour les femmes. Car c'est un crime que d'exclure les femmes d'interdire aux femmes le droit de jouir de la science à la mosquée. C'est un crime. Et c'est malheureux, comme je disais tout à l'heure, il y a encore, elles ne sont pas nombreuses, certaines mosquées en France où les femmes ne sont pas présentes. Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, a anticipé. Il savait que dans sa communauté, il y aurait des gens misogynes ou des gens atteints d'un excès de jalousie et qui diront « Les femmes n'ont rien à faire à la mosquée. Les femmes, la prière chez elles est meilleure qu'à la mosquée. » Ce qui est vrai en soi, mais qui est mal utilisé, mal interprété. La prière de la femme à la mosquée n'est pas une obligation, ce n'est pas non plus une recommandation, mais c'est une autorisation. Et nous n'avons pas le droit, nous les hommes, de les empêcher d'aller à la mosquée, sous prétexte que la prière est meilleure à la maison, leur dit, ça ne sert à rien de prier à la mosquée. Et on sait tous que, à la mosquée, on ne fait pas uniquement la prière, on fait la prière, on se voit, on se rencontre, on échange. On respire tout simplement. Parce que celui qui reste toujours dans un endroit finit par étouffer. Et si nos femmes ne sortent pas de chez elles pour respirer l'oxygène de la mosquée, je vous annonce qu'elles vont quand même sortir de chez elles pour respirer un autre oxygène ailleurs. Pourquoi alors ne pas ouvrir la mosquée, ne pas inciter les femmes à venir à la mosquée pour pratiquer leur religion, mais surtout pour l'apprendre. Et surtout pour l'enseigner. À qui? À leurs semblables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, n'interdisez pas aux femmes les maisons de Dieu. Pardon. Et déjà on fait la remarque à Omar ibn al-Khattab, le grand calife. Il en dit à Omar, tu es quelqu'un de jaloux. Certes, oui, effectivement. Je suis très possessif. Mais pourquoi alors ta femme va-t-elle à la mosquée? Tu es réputé pour être quelqu'un de possessif, de jaloux. Je ne veux pas que ta femme elle ait une présence en public visible. Voilà, je suis allé aller à la mosquée alors. Il a dit, je ne peux rien faire. Je ne peux pas l'empêcher d'aller à la mosquée. Pour la simple et unique raison c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'interdisez pas aux servantes de Dieu, la tamna'u, ima Allah, ama Allah, masajid Allah. N'interdisez pas aux femmes d'aller à la mosquée. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith sahih, si vos épouses veulent aller à la mosquée la nuit, pour faire la prière de la nuit, l'Aïcha, ou la prière de Sobh le matin, donc la dernière prière et la première, alors, le veto? Non. Le hadith est clair pour dire, laissez-les. Et c'est ce qui se passait autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes allaient à la mosquée, non pas la journée uniquement, mais elles y allaient aussi la nuit. Sur des hadiths sahih. Quand je cite un hadith, allez, généralement, il est authentique, et quand il est faible, je dis qu'il est faible. Parce que je ne peux pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors que c'est un hadith faible ou un hadith faux, parce que la responsabilité est trop grande. Donc si tu veux la source et la référence exacte, inshallah, je te la donne juste après, je donne la page et le numéro du hadith. Hadith sahih. Les femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam priaient dans la mosquée. Et d'ailleurs, le hadith du prophète est clair, puisqu'il dit le meilleur des rangs pour les hommes, c'est le premier, et le pire des rangs pour les hommes, c'est le dernier. C'est ça? Et le meilleur des rangs pour les femmes, c'est le dernier, et le pire, c'est le premier. Sous-entendu que les femmes doivent prier derrière les hommes, et qu'il n'y a pas lieu d'ériger des obstacles matériels entre les hommes et les femmes. Quoique aujourd'hui on est tombé dans... Pardon. On est tombé dans des complications qui n'ont pas lieu d'être. On se complique la vie pour rien du tout, alors que si on laissait les choses naturelles, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le laissait naturel, je pense qu'on aurait moins de problèmes dans notre communauté. Donc, l'enseignement de la religion à la mosquée pour les hommes et pour les femmes. Certains prétextes disent non, 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 la femme elle doit rester à la maison et celui qui doit lui enseigner la religion c'est son mari. Je me souviens quand j'étais plus jeune, c'est ce que j'entendais, le discours de certaines personnes. Je voudrais bien voir ces gens-là, s'ils ont fait leur travail. Parce que quand ils sortent de la mosquée, ils rentrent chez eux, ils font un résumé de la khutbah à leur femme. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Si les femmes ne viennent pas à la mosquée pour apprendre la religion, elles ne l'apprendront pas en regardant les chaînes que je ne vais pas citer aujourd'hui, mais que vous connaissez tous. Donc l'objectif de la mosquée, c'est de permettre aux musulmans et aux musulmanes, aux garçons et aux filles, d'être présents à la mosquée pour pratiquer leur religion, pour l'apprendre, pour la vivre ensemble. Et d'ailleurs, la mosquée ne servait pas uniquement au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les pratiques rituelles et l'enseignement et l'apprentissage de la religion. La mosquée avait vocation, donc je vais vous citer d'autres objectifs sans m'attarder pour aller plus vite parce que le temps ne nous permet pas de rester trop longtemps sur ce thème. D'autres objectifs. La mosquée doit permettre aux musulmans de se voir et de se rencontrer. Vous entendez? Parce qu'il y a certaines personnes qui se plaignent et qui disent « Ouais, les musulmans, ils restent à la mosquée, parlent et discutent. » Mais bien sûr, si les musulmans ne se voient pas à la mosquée, ben ils vont aller se voir ailleurs, dans les cafés, ou dans la rue. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, il a surpris des compagnons qui parlaient sur le trottoir. Le prophète leur a dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Ben, laisse de dire « Ce n'est pas poli que de rester sur la voie publique à discuter pendant une demi-heure, pendant une heure, pendant deux heures. Si vous croisez, vous discutez 5-10 minutes, je veux bien. Mais pendant des heures, vous restez dehors, vous discutez, vous gênez les gens. » Ils disent au prophète « On n'a pas trop de choix, on n'a pas d'autre lieu. » Le prophète a dit « Alors, si vous devez à tout prix vous voir dans la rue, discuter, vous devez respecter. Vous devez respecter cette sphère publique. » Ils ont dit « Comment respecter ?» Il a dit « Vous baissez votre regard. Vous ordonnez le bien. Vous interdisez le mal. Vous saluez les gens. Gagnez le savoir-vivre en place publique. On ne reste pas dehors si on n'a pas appris comment se comporter dans la rue. On rentre chez soi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut que la mosquée soit un lieu qui permet aux musulmans de se rencontrer, afin quoi ? Afin qu'ils ne désobéissent pas à Dieu dans la rue, ou dans un autre milieu. Vous allez dire, oui, mais bon, quand on est à la mosquée, on doit parler de tout ce qui nous rapproche de Dieu, on ne doit pas parler des choses de ce bas monde. Pas tout à fait. Il est interdit dans la mosquée et ailleurs, d'ailleurs, de faire des péchés avec la langue ou tout autre péché. Mais s'asseoir à la mosquée et parler de tout, pas de n'importe quoi, c'est possible. La preuve, le hadith rapporté qui dit que les sahaba, les compagnons du prophète, alayhi salam, étaient assis dans la mosquée et ils se mirent à parler de la période avant l'islam. Avant d'être convertis à l'islam, c'était des êtres humains qui se comportaient d'une manière. Donc ils se rappelaient leur jahiliya, c'est-à-dire leur période d'égarement. Et quels sont vous qu'ils ont fait? Ils dirent, et on riait, hein, ils riaient de leur bêtise avant d'être musulmans. Et Abu Bakr dit, je me suis retourné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis et il riait avec nous. C'est-à-dire le prophète les écoutait et le prophète participait à leur discussion, qui était une discussion qui parlait des choses de ce bas monde. Donc ce qui est interdit à la mosquée, c'est la médisance, n'est-ce pas? C'est la moquerie, etc. Mais parler des choses de ce bas monde, tant que c'est dans les limites du halal, c'est pas interdit. D'ailleurs, il serait bien de prendre exemple sur nos frères turcs. Quand ils construisent une mosquée, ils font des annexes. Et parmi les annexes qu'ils font, c'est une salle de réunion. Je ne vais pas dire un café, parce que café c'est péjoratif, hein, chez les Arabes. C'est ça? Mais ils font une buvette. Non, c'est péjoratif aussi. Bref, un petit salon, un salon de thé, d'accord, où ils peuvent, après les prières, s'asseoir, surtout pour nos parents, retraités. Comment voulez-vous qu'ils passent leur temps, les pauvres? Ils ne peuvent pas être concentrés 24 heures sur 24 à lire le Coran et avoir une overdose de Coran. Il faut leur créer leur espace. Pourquoi? Pour pouvoir gérer leur temps afin qu'ils soient épanouis. Car la mosquée a pour objectif de rendre les gens épanouis, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau social, quel que soit leur degré de piété. Vous entendez? La mosquée, il faut qu'il y ait de la place pour tous les musulmans. Pas une catégorie de musulmans. La crème, là, ce que je vous ai dit au début, là, les sabéroules, hein, les premiers. Non, il faut qu'il y ait de la place aussi pour les gens de la droite. Et les gens de la droite, vous savez qui sont-ils? Ce sont troisième. Et il y en a qui ont plus que 10 de moyenne. Ils ont 15, des 18, des 19. Après, vous avez le mourtensé. Lui, c'est juste la moyenne. 10 sur 10. Toujours 10 sur 10. Ouais. Et après, vous avez le zalimoun, les nafsiyis, celui qui est injuste envers lui, en dessous de la moyenne. Et Dieu dit dans le Coran, « Summa uratna al-kitab al-ladina mstansayna min aribadina. » Ces trois catégories de musulmans, ces trois catégories d'individus, ce sont eux que Dieu a choisis parmi le reste de l'humanité. C'est-à-dire, même celui qui est en dessous de la moyenne fait partie de qui? Des élus, et il doit trouver sa place dans la mosquée. Donc, la mosquée doit être un lieu de rencontre, un lieu de convivialité. Vous entendez? Ça veut dire quoi la convivialité? Ça veut dire, lorsqu'on vient à la mosquée, on doit y trouver du plaisir spirituel, du plaisir intellectuel, mais aussi du plaisir matériel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui croit en Dieu, et au jour dernier, qu'il reçoit son invité, comment? De la meilleure façon. Ben, sachez que celui qui fait tout pour que les invités de Dieu à la mosquée soient bien reçus à la mosquée, fait partie de ces gens qui croient en Dieu au jour dernier. Ben, s'il faut qu'à la mosquée, il y ait une ambiance conviviale. Ça veut dire quoi une ambiance conviviale? Ça veut dire, rien ne nous empêche de se fixer un programme de convivialité à la mosquée. Par exemple, qui parmi nous n'a pas des enfants ou n'a pas comme projet de faire des enfants? On a des naissances. Quand on a une naissance, il est de coutume chez nous musulmans de faire une fête, c'est ça? Une haqiqa. Ben écoutez, qu'est-ce qui nous empêche de faire participer le maximum de personnes à ce moment de bonheur et de festivité? Je fais cette haqiqa ou ça à la mosquée. Et j'invite les fidèles qui fréquentent la mosquée, qui ne fréquentent pas la mosquée, je les invite samedi prochain, inchallah, à 19h pour un repas à l'occasion de la naissance de mon enfant. Et les musulmans se retrouvent à la mosquée pour un repas où ils vont échanger. Et moi, ça me permet quoi? Ça me permet, alhamdulillah, de faire les choses dans les règles de l'art islamique. Hein? Au moins, il n'y a pas de péché à la mosquée, alhamdulillah, c'était bien fait. Et ça me permet de faire participer le maximum de personnes et non pas tomber dans quoi? Dans l'égoïsme. Aujourd'hui, quand on fait une fête, on invite son père et sa mère et ses deux enfants, point final. Non. Il faut faire participer le maximum de gens pour qu'il y ait la fraternité dans cette communauté. On peut même aller jusqu'à fêter un mariage dans la mosquée. Mais bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je ne me trompe pas quand il s'est marié avec Safia, il a fait où sa fête? À la mosquée, et sa femme était assise à côté de lui. Et il a fait un repas à l'occasion de son mariage avec cette femme, ou ça, à la mosquée. Et les gens ont été invités à la mosquée, tout le monde a mangé à la mosquée. Et ce genre d'initiative est très important. Très important, pourquoi? Pour que la mosquée soit vivante. Vous entendez? Alors rien ne nous empêche de faire un petit restaurant accolé à la mosquée, une petite salle, on permet, c'est très important. C'est un objectif parmi tant d'autres objectifs.
Ah, j'arrête le temps pour en faire une question-réponse.
D'accord. Alors, la mosquée doit jouer un rôle envers les musulmans. Hein, on doit avoir un programme, des objectifs pour permettre à la communauté musulmane bien spécifique d'évoluer, de s'épanouir. Mais la mosquée doit aussi jouer un rôle dans le quartier, dans la ville dans laquelle elle est implantée. En quoi? En s'ouvrant sur la communauté nationale, c'est-à-dire nos concitoyens. La mosquée n'est pas réservée aux musulmans. La mosquée est construite, entretenue par des musulmans, ce qui est logique et bon sens, mais elle est ouverte à tous les êtres humains. Et d'ailleurs, les musulmans doivent inviter les autres à la mosquée en faisant des journées portes ouvertes pour permettre à nos concitoyens non musulmans de découvrir la mosquée sous son vrai visage, parce que certaines personnes se font des films. Ils ne savent pas ce qui se passe dans la mosquée, ni comment est la mosquée, et ils ont des préjugés. Donc il faut que la mosquée joue un rôle dans le quartier pour que les voisins de la mosquée, les proches de la mosquée, soient apaisés. Parce que malheureusement, il y a des rumeurs, et d'ailleurs il y a des sites. Il y a un site, qui a vu le jour depuis quelques années. Vous savez, c'est quoi son objectif? C'est d'alerter partout en France nos concitoyens non musulmans du danger imminent qui les guette, c'est-à-dire la profusion de mosquées dans leur ville et dans leur quartier. Et ce site, qui est xénophobe, qui est islamophobe et tout ce que vous voulez, tout simplement, c'est un site qui est anti-républicain. Ben, ce site, ouvrez vos oreilles. Il recense toutes les mosquées qui existent en France et tous les projets de mosquées qui existent en France. Et ensuite, il avertit les gens dans le quartier, dans la ville, et il leur donne des outils pratiques pour freiner ou empêcher la construction ou l'agrandissement de la mosquée à travers des actes de propagande qui doivent être menés par les voisins de la mosquée pour sensibiliser les gens au danger imminent qui les guette, c'est-à-dire la naissance d'une mosquée. Et comment désamorcer cette bombe, cette crispation, cette haine envers les mosquées? Il faut ouvrir les mosquées. Il faut inviter les gens. Il faut faire des journées portes ouvertes. Il faut faire des repas du ramadan. Il faut faire des fêtes de l'Aïd et Kbir à la mosquée pour les musulmans et pour les non-musulmans. Vous entendez? Il faut aller voir le responsable, le curé de la paroisse. Hein, vous avez ici dans le quartier un responsable de la paroisse, vous allez le voir, vous en tant que responsable, vous asseyez avec lui, et vous dites voilà la mosquée, et nous vous invitons, monsieur le curé, avec vos ouailles, tel jour à la mosquée, on va vous faire une visite guidée, et nous allons venir visiter votre église, afin qu'il y ait des échanges entre les croyants qui partagent beaucoup de croyances. Pourquoi ? Pour justement que la mosquée ne soit pas une tâche dans l'esprit des gens dans le quartier, mais qu'elle soit une fleur. Les fleurs, c'est beau, et une fleur, surtout une rose, c'est ça ? Les autres fleurs, bien sûr, dégagent des bonnes odeurs dans le coin. Il faut que cette mosquée, et toutes les mosquées de France et de Navarre, dégagent des bonnes odeurs. C'est pour cela que la mosquée doit jouer un rôle de paisibilité, de calme. Peut-être dans les questions, Inch'Allah, on abordera quelques objectifs qu'on n'a pas encore atteints, quelques rôles que la mosquée n'a pas encore joué dans le quartier. À travers le débat, ça sera plus enrichissant, Inch'Allah. Je m'arrête ici pour vous laisser la parole pour vos critiques, vos remarques, vos suggestions et vos questions. Je vous remercie pour votre patience, votre écoute et votre concentration.